Jean-Yves Camus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue et directeur de l'Observatoire des radicalités politiques. Emmanuel Macron a eu un entretien téléphonique avec Benjamin Netanyahou hier, dans le courant de la journée, où le président français semble avoir haussé le ton, notamment sur la situation à Gaza et l'offensive à Rafah. Globalement, comment analyser cet appel dans les relations entre la France et Israël?
Écoutez, c'est la suite, je crois, d'un très long malentendu, enfin, d'un malentendu assez volontaire de la part de la partie française, qui consiste à ne pas saisir quel est l'enjeu pour les Israéliens de se débarrasser, je dis bien de se débarrasser de manière la plus définitive possible de la menace existentielle que représente le Hamas. Donc Emmanuel Macron entend par ailleurs ce qui se dit dans la société française, et pas seulement au sein de LFI, comme certains ont tendance à le croire. La population française, pour une partie d'entre elles, ne comprend pas le défi sécuritaire auquel Israël est confronté, et il est normal que la diplomatie française essaye par ailleurs de jouer sa partition dans ce qu'elle estime être son rôle dans le règlement global du problème proche-oriental. Une résolution portée par Washington a été rejetée à l'ONU, n'a pas pu être examinée à l'ONU plus exactement, précisément parce qu'elle émanait de Washington, vue comme un allié inconditionnel d'Israël. Emmanuel Macron espère sans doute qu'en introduisant une résolution au contenu similaire à l'ONU, il aura davantage d'écoute. Mais au final, tout cela ne changera rien. Il faut être modeste dans l'approche française. La France ne détient pas les clés de la résolution du problème.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que la France a-t-elle réellement des moyens de pression pour se faire entendre par le gouvernement Netanyahou?
Écoutez, Emmanuel Macron a dit hier à Benjamin Netanyahou que tout transfert forcé de population à Rafah constituerait un crime de guerre. C'est effectivement une, si on veut, envenimer davantage les relations franco-israélienne, c'est évidemment une option que de dire si ce transfert a lieu, que cela constitue un crime de guerre et de porter plainte pour cela. Ceci étant, il ne faut pas oublier non plus qu'on est aussi en période électorale, on est en période pré-élection européenne, et la liste que soutient le président de la République a besoin aussi de parler à un certain nombre d'électeurs qui se soucie de la situation proche-orientale. Soyons très clairs, ce n'est pas la majorité des électeurs. Et par ailleurs, il existe, me semble-t-il, les sondages d'opinion l'ont montré en tout cas dès après le 7 octobre, une partie de la population française qui, elle, comprend la situation sécuritaire et qui voit bien que le danger existentiel que représente pour Israël le Hamas, c'est aussi le danger existentiel ou quasi-existentiel que représente le terrorisme islamiste pour notre pays et pour l'Europe.
Alors, vous l'avez évoqué, un deuxième point qui a été également évoqué par le président Macron, c'est la crise humanitaire à Gaza. Il a notamment insisté sur l'ouverture immédiate et sans condition de tous les points de passage vers la bande de Gaza. C'est un vœu pieux de la part de Macron ou cela peut-il aboutir et régler la situation?
Vous savez, tout le monde souhaite que les populations gazaouis qui en ont besoin aient une aide humanitaire qui leur parvienne. Et pour que cette aide humanitaire leur parvienne, il faut effectivement que des points de passage soient ouverts. Donc on peut toujours le souhaiter, on peut toujours le demander, jusque-là c'est normal. Ensuite, il faut bien avoir conscience de ce qui coince pour que le système fonctionne. Que l'aide humanitaire parvienne par des points de passage sécurisés, c'est une chose. Encore faut-il ensuite que le Hamas ou ces séides ne mettent pas la main sur cette aide humanitaire pour la distribuer au gré de leurs envies à tous ceux qui constituent leur clientèle, en oubliant ceux qui n'en sont pas.
Et quelles sont du coup les mesures spécifiques que le président français a proposées pour atténuer cette crise humanitaire? Comment la France peut-elle faire sa
Vous
part?
savez, il n'y en a pas particulièrement. On peut déployer de l'aide française. Il y a un certain nombre d'ONG qui font un effort assez considérable comment dire, d'achat de denrées des ONG qui sont déjà sur place. Je pense à ACT-AID, par exemple, qui fait un travail assez remarquable pour secourir ces populations. Ce sont des ONG qui ont l'expérience du terrain, qui ont l'expérience de cette zone, qui, a priori, sont irréprochables sur la gestion de l'aide humanitaire qu'ils font parvenir. Mais une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas de levier particulier que la France posséderait et que d'autres n'ont pas.
Et donc le président français envisage une action française conjointement avec d'autres acteurs internationaux, c'est bien ça?
Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. De toute façon, vu l'ampleur de la crise humanitaire, seule une réponse coordonnée d'un certain nombre de pays, en lien toujours avec les ONG, hein, qui supportent, il faut le rappeler, une grande partie du fardeau. C'est effectivement une crise d'une telle ampleur que seule une aide coordonnée peut non pas en venir à bout, mais du moins l'atténuer. Mais encore une fois, ne soyons pas angéliques. Une partie de la résolution du problème que constitue la situation humanitaire à Gaza est aujourd'hui entre les mains du Hamas.
Alors, je voudrais maintenant revenir sur un point que vous avez évoqué également, qui est, d'après ce que je comprends, donc Emmanuel Macron s'adresse potentiellement à une partie de son électorat, mais est-ce que cette conversation indique un signe de la part de la France de vouloir reprendre une place de choix dans, par exemple, les négociations sur l'accord sur la libération des otages?
Oui, c'est sans doute un vœu. Et personne ne peut souhaiter que la France soit une puissance de second rang. Ceci étant, pour, passez-moi l'expression, dealer avec succès la libération des otages, ce n'est pas la France qui a la main. Ce sont les États-Unis qui ont la main, c'est le Qatar qui a la main. Et naturellement, la résolution de cette de ce problème de la libération des otages, elle est, désolé de me répéter, mais c'est tout de même le fond du problème, entre les mains du Hamas. C'est-à-dire que la libération des otages, et il faut bien comprendre là-dessus le point de vue israélien, ne peut s'effectuer, me semble-t-il, que si jamais le Hamas consent à donner des preuves de vie des otages et à fournir une liste nominative de celles et de ceux qui sont en vie et qui vont être libérés. C'est absolument crucial.
Et donc, ma dernière question, vous l'avez évoquée également, c'est Emmanuel Macron a fait part de son intention de porter au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution pour un cessez-le-feu immédiat et durable, sachant que cette résolution a été rejetée par veto et elle était portée par les États-Unis, elle a été rejetée par veto en fin de semaine dernière. Quelles sont les chances, à votre avis, de succès de ce projet?
Assez modéré. Et par ailleurs, sur le fond, quand bien même cette résolution aboutirait, elle est à mon avis prématurée. Il n'y a pas les conditions aujourd'hui pour qu'un cessez-le-feu immédiat et sans condition existe sans que les intérêts vitaux d'Israël en prennent tout de même un coup. Je crois que vu d'ici, c'est évidemment très facile, sur la base de considérations humanitaires et de la bonne conscience que chacun peut se donner, de dire il faut immédiatement que ça s'arrête. Mais encore une fois, il y avait un cessez-le-feu avant le 7 octobre. Ceux qui ont fait en sorte que la situation aboutisse au point où nous en sommes aujourd'hui, c'est le Hamas, ceux qui l'ont financé, ceux qui hébergent ses dirigeants et ceux qui continuent à croire à sa version des faits.
Eh bien, Jean-Yves Camus, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes politologue, vous êtes directeur de l'Observatoire des radicalités politiques. Merci beaucoup, bonne journée.
Bonne journée, au revoir.